Radio Okapi.
À la présentation du journal, Bibi Mokonkole.
L'Ouganda ferme sa principale frontière avec la RDC et menace d'arrêter sa participation militaire dans le maintien de la paix dans le continent. Selon la BBC, cela fait suite aux accusations des Nations Unies contre Kampala de soutenir les rebelles du M23. Province orientale, près de 20 000 sinistrés des inondations dans le territoire de Dungu. Affirmation de l'administrateur de ce territoire. Le programme alimentaire mondial a commencé la distribution des vivres à quelques victimes. Le médecin chef de zone de santé redoute des épidémies. Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière s'en va en guerre contre les accidents de route. 280 décès et 3000 blessés, c'est le bilan des accidents de route en recrudescence entre janvier et août 2012. La CNPR entend donc assainir le secteur de transport en commun. Madame, Monsieur, bonjour. L'Ouganda ferme son principal poste frontière de Bunagana qui le sépare de la RDC. Kampala réagit ainsi au rapport d'experts des Nations Unies qui l'accuse de soutenir les rebelles du M23. Selon une dépêche de la BBC datée d'hier mardi, l'Ouganda menace même de mettre un terme à sa participation militaire dans toutes les opérations de maintien de la paix sur le continent. Lievin Mwinga.
À en croire notre consoeur la BBC, la décision ougandaise annoncée entre en vigueur hier mardi est mal accueillie par les populations locales. Depuis hier donc, plus personne n'a le droit de traverser le poste frontière de Bunagana. Pour Kampala, cette mesure doit dissiper les soupçons que les autorités ougandaises utiliseraient cette frontière pour apporter leur soutien à la rébellion du M23, comme l'indiquent les fuites d'un rapport d'experts de l'ONU. Selon la même source, ce rapport, qui n'a pas encore été publié, a tellement mis en colère l'Ouganda que le pays menace aussi de retirer ses troupes de toutes les opération de maintien de la paix sur le continent. L'activité à Bunagana était déjà réduite depuis le déclenchement de la rébellion du M23, mais de nombreux commerçants utilisaient toujours la frontière. Les Ougandais achetaient de la nourriture et cherchaient de l'eau du côté congolais. Des enfants congolais traversaient la frontière pour aller à l'école en Ouganda. Tout cela est donc terminé. Les soldats ougandais veillent et la frontière restera fermée jusqu'à nouvel ordre, assurent les autorités ougandaises.
Parlons de l'est de la RDC. Au Nord Kivu, la société civile de Lubero demande aux FARDC de reprendre leurs anciennes positions à Bunama, Miriki, Kimaka et Katsinga, des villages situés à environ 20 km à l'ouest de Kanyabayonga. Objectif, mettre fin aux violations des droits humains commises par les FDLR. Dans une correspondance adressée lundi au commandant 5e secteur FARDC, basé à Lubero Centre, les forces vives soulignent les violations graves des droits humains que subissent les populations de ces villages depuis leur occupation par les FDLR en avril dernier. Alice Kakoulé de la radio rurale de Kanyabayonga pour le compte-rendu.
Les violations graves des droits humains dans ces villages depuis plus de 6 mois motivent la demande de la société civile. Selon cette correspondance, les violations sont caractérisées par des morts d'hommes innocents, les déplacements des populations, les violences sexuelles, les travaux forcés, le pillage des produits des champs et les taxes imposées par les FDLR. Face à ce genre de violations, la société civile de Lubero pense qu'il est temps de libérer la population de ces villages et de ces emprises. Selon elle, les militaires FARDC doivent reprendre urgemment leur ancienne position pour protéger la population. J'ai au téléphone le commandant 5e secteur FARDC promet le démantèlement et l'éradication dans un bref délai du phénomène FDLR dans cette zone. Le colonel Mugabo promet également la maîtrise de tous les autres groupes armés nocifs au rétablissement de la paix dans ce village. Kanyabayonga, Alice Kakoulé, de la radio Kanyabayonga pour Radio Okapi.
La situation des droits de l'homme s'est dégradée en RDC depuis la tenue des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. C'est ce qu'indique le réseau national des ONG des droits de l'homme dans une déclaration rendue publique hier mardi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Dans ce document intitulé « 6 mois après l'investiture du gouvernement Augustin Matata Ponyo, quel bilan sur l'échiquier des droits de l'homme ?» le RENADOC parle notamment des violences faites aux femmes qui ont atteint, je cite, le seuil du paroxysme en RDC et surtout dans la partie est du pays où les femmes sont systématiquement violées. Fin de citation. Selon le RENADOC, aucun progrès n'a été enregistré. Contrairement au discours officiel teinté d'une rhétorique bien ficelée, la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, et l'Ouganda et le lancement des mandats d'arrêt internationaux à l'endroit des principaux responsables du M23 sont parmi les recommandations que le RENADOC fait au gouvernement. Fernandez Mourola, secrétaire exécutif du RENADOC, est au téléphone de Richard Junior Kamunga.
On a passé en revue les 6 mois du gouvernement Matata Ponyo depuis son investiture et nous nous sommes rendus compte que le premier objectif de son programme d'action quinquennale du gouvernement 2012-2016 qui était axé sur la poursuite des réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État n'est pas encore opérationnel jusqu'à ce jour. Alors que c'est l'objectif qui concerne les volets essentiels des droits humains en République démocratique du Congo. Nous nous sommes rendus compte par exemple que les procédures de prise de décision publique ne sont pas toujours améliorées. Et le processus de décentralisation est resté stationnaire. La réforme de l'administration publique reste toujours théorique. La réforme de l'armée, de la police nationale congolaise et des services de sécurité reste toujours assujettie à l'absence de la volonté politique, pourtant très salutaire pour la survie de la nation. La promotion des droits de l'homme, toujours pas intériorisée par les instances de prise de décision. La réforme du système judiciaire, toujours bloquée à souhait. La lutte contre la corruption et l'impunité demeure hypothétique. La promotion du genre ainsi que l'amélioration du statut de la femme et de l'enfant demeure des slogans créés.
Direction province orientale, près de 20 000 personnes sont touchées par les inondations dans le territoire de Dungu, dans le district du Haut-Ouélé. Chiffre avancé hier mardi par l'administrateur du territoire de Dungu. Cela fait au moment où les eaux commencent à baisser. Cela au moment où les eaux commencent à baisser dans les rivières. Le programme alimentaire mondial PAM a commencé hier même la distribution des vivres à une partie des sinistrés. Le point avec José Deschartemenga qui revient de Dungu.
La cité de Dungu Centre a présenté pendant plus d'une semaine un spectacle désolant. Les rivières Dungu, Kibali, Ouye et Nambia sont sorties de leur lit, formant de véritables fleuves intérieurs. Toutes les maisons au bord de ces rivières sont toujours sous les eaux. Plusieurs routes, notamment celles qui partent du centre-ville vers l'aéroport et celles qui mènent vers la cathédrale, ont été coupées. Même le quartier général de la MONUSCO et la résidence de l'administrateur du territoire n'ont pas été épargnés. Depuis quelques 3 jours, les eaux ont commencé à se retirer. Plusieurs personnes déplacées sont sans abri. Certaines vivent à la Belle Étoile, non loin du marché central de Dungu. D'autres sont dans des familles d'accueil. Jusqu'au moment où nous partions de Dungu, les sinistrés étaient toujours sans assistance. Mais ce mercredi, l'administrateur du territoire Christophe Ikando rapporte que le programme alimentaire mondial, PAM, a commencé à distribuer des vivres aux sinistrés du quartier Bamukandi. Il indique qu'une délégation de la Banque mondiale venue de Kinshasa est arrivée sur place hier mardi pour évaluer les dégâts. Le médecin-chef des zones de santé redoute des épidémies après ces inondations. Bounia. José Deschartemenga, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Kinshasa, on parle de recrudescence des cas d'accidents de circulation routière. La Commission nationale de prévention routière dit avoir dénombré près de 1800 accidents entre janvier et août 2012, soit une augmentation de près de 30% par rapport à l'année précédente. Selon son président, ces accidents ont coûté la vie à 280 personnes et fait 3000 autres blessés. Pour combattre ces accidents, la CNPR se donne 100 jours pour renforcer la sensibilisation et assainir le secteur de transport en commun. Michel Kifindangoy.
Depuis le début de cette année, Kinshasa a enregistré par mois plus de 210 cas d'accidents, soit une moyenne de 8 accidents par jour. Selon les statistiques fournies par la Commission nationale de prévention routière, ces accidents tuent au moins une personne et près de 25 blessés par jour. L'ignorance du code de la route, le manque de sanctions et l'inexistence de la signalisation sur certains tronçons sont parmi les causes les plus récurrentes, soulignent les usagers de la route. Témoignage.
L'autorité publique doit veiller à faire respecter la loi, car dans notre pays, on ne sanctionne que pendant une semaine. Après, c'est du laisser aller. Voilà pourquoi personne ne se gêne de violer le code de la route.
Pour prévenir ces cas d'accident, le président de la CNPR, nouvellement nommé, s'engage entre autres à poser dans les 100 jours les caméras de surveillance sur des points chauds de certaines routes. Val Manga.
Il y aura un recyclage de tous les conducteurs de notre pays. Donc, fini le permis de conduire sous les arbres. Au niveau des véhicules sûrs, là, le contrôle technique avec la ville et partout se fera. Aussi, nous comptons mettre sur pied des caméras de surveillance de circulation et des caméras de surveillance de vitesse. C'est juste pour diminuer aussi le cas d'accident.
Pour ce qui concerne l'implantation de la signalisation sur certaines artères, Val Manga souligne que le projet est déjà en cours et sera finalisé dans les 100 jours.
contentieux électoral dans le Bas-Congo. Dans son réquisitoire hier mardi à la cour d'appel de Matadi, le ministère public s'est déclaré incompétente d'examiner la requête en annulation déposée par l'avocat conseil de la majorité présidentielle la semaine dernière. Cette requête demandait l'annulation du résultat de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur organisée les 28 et 31 octobre dernier. Pour les avocats de la MP, les dispositions de l'article 160 de la loi électorale et de l'article 110 de la Constitution auraient été violées. La cour d'appel de Matadi se prononcera dans les 48 heures. Dani Kindanzita.
C'est après une plaidoirie d'environ 15 minutes que l'officier du ministère public Niami Bernardin a déclaré que la cour est incompétente de se prononcer sur la requête en annulation des élections du gouverneur et vice-gouverneur des 28 et 31 octobre dernier dans la province du Bas-Congo. La décision de fixer le calendrier électoral relève de la CENI, qui est une institution indépendante dans l'organisation des élections. S'agissant des 3 députés provinciaux Fuka Unzola, Atumwatubwana et Mambolwamba, mis en cause par l'avocat de la majorité présidentielle pour valider ou invalider leur mandat, c'est la plénière de l'Assemblée provinciale qui assume la responsabilité. Selon Maître Nsasanzita, avocat conseil du gouverneur élu Jacques Mbadou, la population attend la proclamation des résultats définitifs jeudi prochain. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.